Bonjour et bienvenue dans le podcast Moment Zen sur le chemin de la naissance. Je suis Geneviève Talbot, maman de 4 enfants et spécialisée en périnatalité depuis plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu trouveras bien sûr des informations sur la grossesse et l'accouchement, mais aussi des enseignements de pleine conscience qui vont transformer ta vie et t'aider à développer sans cesse une meilleure version de toi-même à travers la maternité. Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la co-naissance. Alors, dans cet épisode, on accueille la docteure Geneviève Rancourt, qui est médecin de famille accoucheur ici dans ma région, dans la région de Montmagny, dans un hôpital qui a environ 300 accouchements par année. On a parlé avec elle au dernier épisode des interventions médicales pour l'accouchement au niveau du déclenchement, les ventouses, l'épidural, le soulagement de la douleur et tout ça. Alors, bonjour Geneviève.
Bonjour.
Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler un peu des méthodes de l'accouchement physiologique, des méthodes peut-être un peu plus naturelles pour ça, déclencher l'accouchement, des méthodes non médicales dans le fond, pour soulager la douleur, faire descendre bébé, pour que tout le processus de l'accouchement se passe le plus physiologiquement possible.
Oui, super.
On va y aller avec ça. Donc, dans les méthodes naturelles de déclenchement, qu'est-ce que tu proposes à tes patientes
oui, quand c'est ça. L'heure? Dans le fond, bien, c'est sûr que moi, je suis curieuse, puis j'ai aussi appris beaucoup pendant mes grossesses. Que ça va teinter mes conseils que je donne aux patientes. J'aime ça avoir l'esprit large. Fait que dans le fond, moi-même, je vais vous en reparler, mais j'ai été déclenchée deux fois. Fait que je me suis informée sur tout ce qui existait de non médical pour pouvoir pas être déclenchée. Ça m'a permis de faire le tour puis pouvoir partager ça justement avec mes patientes après. Tout d'abord, on avait parlé du stripping, qui n'est pas une méthode de déclenchement, mais que le médecin peut offrir. À partir de là, quand c'est ce qu'on a fait, bien, il y a d'autres choses qu'on peut quand même essayer de faire. Comme je dis souvent à mes patientes, on n'a rien à perdre rendu là, dans le fond. Là, ça peut juste aider, ça ne peut pas vraiment nuire. La première chose à quoi je pense, c'est l'acupuncture. Il y a quand même des points de pression qui peuvent stimuler pour favoriser le travail, détendre. Puis dans le fond, ça vaut la peine de les appeler tôt parce qu'ils peuvent faire des traitements un peu plus intensifs ou moins. Comme ils ne feront pas ça si tu n'es pas à terme, par exemple. Là, ils vont y aller plus doucement. Puis quand on est proche de la date, bon là, ils vont faire un petit peu plus activement. Mm-hmm. Moi-même, je l'ai expérimenté. Puis on sentait vraiment des contractions après. Là, ça m'a fascinée parce que je restais là. J'étais un peu sceptique en me disant, mon esprit très cartésien, médical. Je me disais, bof, je vais aller voir. Mais finalement, j'ai franchement été surprise de ça. Donc, l'acupuncture en premier, ça vaut la peine. Si c'est quelque chose déjà que vous faites puis que vous aimez, quelqu'un qui fait de la grossesse, par exemple, c'est important.
Puis quand tu dis tôt, c'est quoi? Souvent, c'est à partir de 36 semaines, mais ça peut être avant. As-tu un nombre
oui,
de semaines?
Oui, je me souviens pas exactement, mais ça vaut la peine de les appeler d'avance parce qu'eux vont pouvoir dire, en fait, vers combien de semaines. Parce que des fois, ils peuvent faire aussi, tu sais, pour la fatigue, l'énergie, des fois pour la position de bébé aussi, si c'est un siège.
Narciatique aussi.
Oui, c'est ça. Il y en a qui pour les nausées, ils vont aussi. Fait que c'est sûr que moi, souvent, c'est pour les bébés en siège puis pour les déclenchements que je vais les référer à l'acupuncture, mais en fait, leur en parler parce que c'est non traditionnel, c'est pas disons. Je ne peux pas prescrire mettons, l'acupuncture.
Oui, 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 oui.
Mais oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est juste de ne pas attendre les jours avant l'accouchement. Parce que des fois, il faut 2-3 traitements. Là. Fait que c'est quelques semaines avant. Donc, peut-être vers 36 semaines, penser que ça pourrait être un bon moment, mais de vérifier avec l'acupuncteur, dans le fond.
Mm-hmm. Puis, c'est vrai que c'est pas tous les acupuncteurs qui sont spécialisés en périnatalité ou pour les grossesses. Là. Fait que c'est important de vérifier ça.
Ouais.
Puis des fois, même si tu tombes sur quelqu'un qui ne l'est pas, des fois, ils peuvent te référer à quelqu'un d'autre ou en tout cas…
Exactement. Puis si jamais vous avez peur des aiguilles, là, moi, c'est un peu étrange, mais j'aime pas les aiguilles. Là. Je peux en voir, mais moi-même, me faire piquer, une prise de sang, je déteste ça. J'avais un peu l'appréhension, mais… Mon Dieu, j'avais plein de petites aiguilles dans le visage, j'ai jamais vu ça aller. Je me suis endormie tellement de fois là-bas que faut pas que ça vous freine si vous voulez l'essayer. Donc, l'acupuncture en premier. Après ça, tout ce qui va libérer les hormones du plaisir, là, tout ce qui fait du bien à la fin, là, quand on est plus stressé, ça fait moins libérer les hormones qui vont favoriser les contractions. Fait que souvent, je dis à mes patientes, bien, c'est le bon temps d'aller manger du chocolat, de se faire un soupon amoureux, de prendre un grand bain, d'écouter de la musique qu'on aime, de se faire un souper de chum de fille. C'est quelque chose qui vraiment nous procure du plaisir puis qui c'est pas trop trop cérébral et de stress, ça aide à être détendu puis en même temps à faire libérer plus d'hormones. Encore là, est-ce que c'est prouvé scientifiquement? De toute façon, on n'a rien à perdre. Puis c'est une belle excuse à dire à son conjoint, j'ai besoin d'un petit massage ce soir, chérie. C'est prescrit par le médecin. Tout ce qui est des relations aussi, dans le fond, parce que ça se trouve à faire stimuler un peu le col de l'utérus, faire libérer les prostaglandines qui vont donner un peu plus de contractions. D'ailleurs, on s'en rend compte quand on est enceinte, mais quand on n'est plus enceinte aussi, des fois, il y a des femmes qui vont avoir des contractions au niveau du col assez fortes, là, qui vont avoir une espèce d'inconfort, de crampe après les relations. Des fois, c'est un petit peu plus le cas enceinte. C'est un petit peu ça que ça fait comme impression, une espèce de petite crampe de bas-ventre, de menstruation. Il y a des femmes qui vont le sentir, d'autres pas du tout. Le fait d'avoir des relations, bien, premièrement, c'est pour le plaisir, comme on se disait. Deuxièmement, c'est pour libérer les hormones. Puis en même temps, ça aide aussi à amener un afflux sanguin au périnée qui va être aussi un peu plus souple. Donc, ça plaît à l'esprit que ça peut être aidant pour le périnée à l'accouchement. Okay. Sinon, les autres choses que j'ai regardées, c'était plus au niveau des sages-femmes, quand j'avais regardé un petit peu toutes les choses. Il y avait quand même des études de la SOGC que j'ai vues par rapport à ça. C'était plus au niveau des dates, là, le fruit là, qu'on peut manger. Okay. Là. Ce que je voyais, c'était autour de 5 à 6 dates par jour fraîches là, qu'on pouvait manger, que ça a aidé à favoriser le travail. Parfois, ça pouvait être moins long aussi. Il y avait des tisanes de framboisier, s'assurer là, qu'on est rendu à terme, là, pas prendre ça avant, puis de regarder aussi avec l'endroit où vous achetez ou d'en parler avec votre médecin, tout dépendant de la condition. Mais c'était presque 1 litre par jour, par exemple, là, mais ça favorisait les contractions, puis ça pouvait aider l'utérus à se préparer un accouchement plus rapide, là, ce que je disais. Là.
Ces affaires-là, vu que c'est naturel, ouais. C'est comme il y a un délai, puis il y a une grande quantité qui vient.
Exactement.
Avec ça,
exactement. Puis dans le fond, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Hein. Souvent, je fais la comparaison. Si je prends un casseau de fraises au complet, je vais avoir mal au ventre. C'est pas parce que c'est naturel que. C'est pour ça que c'est important quand même de regarder comme il faut ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de tisanes qu'on ne peut pas rendre enceinte. C'est vraiment la tisane de framboisier qui avait été suggérée. Là. J'avais regardé ça dans le livre d'Isabelle Brabac, qu'on reparlera peut-être plus tard. Et il y avait une dernière chose, tout ce
les
qui
capsules,
est des,
Les capsules d'huile d'onagre, as-tu essayé ça?
Non, j'avais regardé un petit peu, mais ça, j'avais regardé dans le livre de médicaments et allaitement, puis il me semble que c'était ça, qu'il n'y avait pas assez de données, il y avait peut-être un petit peu plus de méconium, et c'est de mémoire, mais il me semble que c'était pour ça que je ne l'avais pas essayé, là, c'était pas si clair finalement, puis je m'étais dit que là, j'étais pas mal déjà... J'avais déjà pas mal d'équipements pour être déclenchée.
Tu avais dépassé ta limite de...
peut-être aussi, mais je m'étais dit pour une prochaine grossesse, peut-être.
Parce que je sais que dans le livre que tu parles, Isabelle Brabant, on peut peut-être le nommer, là, c'est une naissance heureuse. Oui. C'est une sage-femme, dans le fond, qui explique un peu plein de choses sur la grossesse et l'accouchement, mais dont une partie sur le déclenchement naturel. Les capsules d'huile d'onagre, c'est parce que c'est plein de prostaglandines aussi. Mais encore là, ça peut être intéressant. Souvent, tu dis en parler à son médecin, souvent, ils ne savent pas trop comment s'aligner avec ça. Ça peut être intéressant, peut-être une naturopathe ou une homéopathe, tu sais, parce que c'est ça, c'est pas sans danger. Puis.
Les pharmaciens aussi,
parce que en a
les produits naturels, ils ont souvent la ressource qu'on a, nous, qu'on regarde pour l'allaitement et la grossesse, puis ils vont beaucoup parler des produits naturels. Fait que souvent, ça vaut la peine là, parce que. Là, c'est en date d'aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, on va parler d'autres choses, mais juste de s'informer dans le fond quand même. Mais en général, c'est quelque chose de sécuritaire si on le prend à terme, pas à 30 semaines, parce que
exactement.
C'est à la fin de la grossesse.
Faut que ça soit le temps. Puis en tout cas, les capsules d'huile d'onagre, moi, je l'ai essayé personnellement, ouais. Parce que moi, je suis une éternelle déclenchée, moi aussi.
C'est ça. Entre Geneviève, on se comprend.
Oui, c'est ça. On cherche des trucs, hein, c'est parce ça. Que puis c'est à ma dernière grossesse, là, je me suis dit exactement ce que tu as dit tantôt. J'ai absolument rien à perdre. Mm. Au pire, ça ne marchera pas. Je savais qu'au pire, ça ne marcherait pas. Là.
C'est ça, c'est pas la fin du monde, mais tu dis au moins, j'aurais
essayé. Je savais qu'il n'y aurait pas de conséquences plus que ça. Ouais. Mais c'est vraiment des capsules qu'on va porter dans le vagin, okay. Vraiment au col, le plus loin qu'on peut, pour faire ramollir le col, comme pour imbiber le col. C'est un peu comme les relations sexuelles avec le sperme. Il imbibe le col à quelque part de prostaglandine, mais c'est un peu le même principe, mais tu mets ça avant de te coucher et le matin. C'est bien lubrifié.
C'est mieux le matin.
C'est bien lubrifié quand tu te lèves le matin. je pense que ça n'a pas nuit.
Donc, le premier principe, va aller ouvrir le livre. Oui, c'est ça.
Puis la posologie est dans le livre, je ne m'en souviens pas par cœur, puis même si je le savais, moi, j'étais allée vraiment, je m'étais pris comme 10 jours d'avance, parce que je savais que ça finirait bien probablement par, par un déclenchement, mais puis, j'avais augmenté la dose. J'étais allée très, très parcimonieusement, mais je sais que c'est, en tout cas.
Puis dans son livre, il me semble qu'Isabelle Brabant, justement, elle écrivait un peu
les doses,
puis les inconvénients ou les effets secondaires qu'on pouvait avoir. En tout cas, c'était bien détaillé. Moi, je me sentais vraiment en sécurité avec, avec ça. Fait que juste de bien s'informer, dans le fond, de ne pas prendre ça pour...
Parce qu'il y a d'autres plantes, là, qu'elle parle, l'huile de bourrache. C'est tout ce qui a de la prostaglandine dedans. Fait que c'est sûr que si vous avez... Tu sais, si tu as une naturopathe. Qui, que tu connais ou que tu vas aller consulter, eux autres sont. Eux autres, c'est leur métier, là,
ouais, c'est
au niveau des plantes.
L'autre chose aussi, c'est au niveau. C'était comme une espèce de mythe de grand-mère, on dirait, mais tu sais, de laver les planchers, tu vas accoucher. Mm-hmm. Là, ça m'avait intriguée. Moi, déjà, que j'aime pas tellement laver les planchers chez nous. Ce que j'avais vu, je trouvais ça intéressant, c'est qu'il disait qu'il y a quelque part, il y a aussi le principe d'avoir le ventre dans le vide vers l'avant. Que les positions un peu le ventre vers l'avant, si on s'appuie sur un ballon ou qu'on est penché vers l'avant, ça aide le bébé un peu le dos à se placer dans la bonne position puis à favoriser un peu l'engagement finalement. Je trouvais que ça faisait du sens, ça me fait 4 pattes pour laver le plancher par exemple. En même temps, c'est un effort aussi, fait que ça nous fait bouger. Mais c'est un peu la poule ou l'œuf parce qu'il y a aussi ce qu'on remarque là, vraiment sur le terrain, je trouve, là, c'est. Il y a une espèce d'état d'esprit qui change quand on va accoucher bientôt. Moi, j'étais dans ma bulle, je pensais juste à mon bébé, à mon petit nid. On dirait que les femmes, ils deviennent un petit peu plus dans leur bulle, puis ils veulent tout préparer avant l'arrivée de bébé, comme s'ils sentaient un
Créer
peu que ça s'en vient. C'est pas tout le monde, il y en a qui sont plus, ça paraît vraiment. Puis on dirait que je me dis, c'est peut-être ça, peut-être que le fait de laver le plancher, c'est plutôt ton envie que tout soit propre, tout soit prêt pour que ton bébé arrive. Fait que si tu la poule ou l'œuf, ben, en tout cas, votre plancher va être propre.
Mais en yoga, la position quatre pattes, c'est la position qui ouvre le plus le bassin. On a l'impression que les positions pour faire descendre le bébé, c'est beaucoup les positions qui utilisent la gravité. Mm-hmm. Oui, ça peut être ça, mais si bébé est cointé dans son passage osseux dans le bassin quelque part, la gravité ne l'aidera pas. Tandis qu'avec le quatre pattes, ça ouvre l'articulation du bassin, puis ça permet au bébé de s'aligner comme il faut dans le bassin.
Donc, dans le fond, une autre explication. puis la dernière chose j'essaie de ne pas oublier aussi, c'est par rapport à la stimulation des seins. Parce que quand les seins sont stimulés, ça libère de la prostaglandine, mais ça fait aussi favoriser les contractions. D'ailleurs, quand les femmes y allaitent au début, on a les tranchées que les grand-mères appelaient, mais ça donne des contractions à l'utérus. Donc, on peut favoriser les contractions en stimulant les seins. J'avais déjà fait un stage avec une médecin que ce qu'elle avait proposé de faire, c'était de soit prendre un tire-lait ou de prendre de l'huile puis de comme frotter un peu les mamelons, dans le fond, 10 minutes, tu prends une petite pause, tu refais ça 10 minutes, tu reprends une petite pause. Ça ne va pas déclencher le travail bing-bang comme ça, mais ça peut des fois être le petit coup de pouce qui manquait pour aider à ce que ça active.
C'est comme si ça met en place physiologiquement quelque chose au niveau hormonal aussi.
Oui,
là.
Comme si ça disait un peu au corps, bien là, mes seins sont stimulés, c'est prêt, ça libère un peu plus d'hormones. En tant que telle, je ne l'ai pas fait tant que ça en pratique parce que souvent, quand les femmes viennent pour déclencher, c'est comme là,
c'est
le déclenchement. Fait que c'est rare que ça leur tente tant que ça d'essayer le tire-lait, mais ça peut se faire. Puis ce que j'aime plus, je trouve qu'il est un entre-deux, c'est de plus en plus, on essaie d'y penser, mais on peut tirer son lait avant l'accouchement. Puis le mettre dans des petites fioles qui sont stériles, puis l'amener à l'accouchement. Moi, de plus en plus, c'est plus ça que je propose à mes patientes s'ils ont un intérêt. S'ils savent qu'ils veulent allaiter ou qu'ils ont déjà du lait qui coule dans la douche, bien, ce qu'on peut faire à la fin de la grossesse, tant qu'on est à terme, on peut, dans le fond, juste avec la main, faire une compression manuelle, sortir les petites gouttes, c'est juste quelques gouttes, là. Il n'y a pas grand-chose souvent. Fait qu'on peut les mettre soit dans des petites seringues qui sont stériles, on enlève l'aiguille, on le met dans le congélateur, mais il y a aussi des petites mini... comme des contenants pour faire des popsicles avec un bouchon. Là. Il y a des petits mini de fioles qui existent comme ça, de quelques millilitres, qu'on peut mettre ça dedans, ou les sacs là, pour congeler le lait, qui viennent avec les tire-lait des fois. Fait que ces quantités-là, on peut les congeler. Puis moi, je vous propose de les amener à l'hôpital. Il faut qu'ils soient identifiés à votre nom, là, puis vous vérifiez avec l'hôpital où vous allez si c'est correct. Mais nous, à Montmagny, on a un frigo qu'on peut mettre le lait là, parce qu'il ne faut pas que ça soit mélangé avec les animaux.
Puis ça fait quoi, ça?
Bien, mettons, moi, par exemple, j'avais... Je voulais l'essayer, puisque je suis curieuse, comme je te disais. Mm-hmm. Puis finalement, c'est qu'après mon accouchement, j'avais un diabète. Mon bébé a fait une hypoglycémie. Il manquait de sucre. Fait qu'il fallait vraiment le faire boire là. Ça mettait comme une pression à ce que l'allaitement marche là, si je voulais pas avoir de biberon. Mm-hmm. Fait que finalement, ça m'a permis de pouvoir essayer la mise au sein. Ça fonctionnait pas beaucoup, il était fâché, de lui donner mon propre lait que j'avais congelé là, puis de m'extraire tranquillement après. Fait que ça permet, dans le fond, d'avoir une mini-réserve, de un. Ça diminue le stress de se dire, regarde, ça sera mon lait que je vais lui donner. S'il y a quelque chose, j'aurai ça en backup. Puis de trois, le fait de faire la compression, premièrement, on apprend comment la faire, fait qu'on a une petite longueur d'avance rendue à l'hôpital. Mm-hmm. Puis deuxièmement, la stimulation des mamelons fait contracter. Encore là, okay. C'est à terme, par exemple.
Oui. Fait qu'il y a comme plusieurs objectifs à ça, dans le fond. C'est oui. Comme, oui, un backup pour l'allaitement, mais le fait, bon, tu apprends les techniques de compression si tu en as besoin pour allaiter après. Puis, ça peut déclencher le travail en même temps.
Oui.
Puis, j'ai le goût de revenir sur ton quatre pattes. Je...
Oui, tu veux ça m'a intriguée. Tu veux me confirmer que... Oui, vas-y.
Ah, non, mais... comment je dirais bien, non? Moi, j'ai déjà des filles qui ont essayé ça. C'est sûr que si c'est pas mûr, c'est le genre d'affaires qui ne marchera pas, là. OK, ouais, ton ça. Travail, il faut qu'il soit mûr, de toute façon. Mais le fait d'être à quatre pattes, comme je te disais, ça permet ce que j'ai dit tantôt, ouais, l'ouverture du bassin. Puis, tu sais, laver ton plancher. As-tu déjà lavé ton
non,
plancher?
Non, c'est ça, je suis biaisée pour ça, probablement.
Bon, c'est ça, mais quand tu laves ton plancher à quatre pattes, tu sais, il y a beaucoup d'asymétrie.
OK.
Tu sais, tes jambes, c'est vraiment relié au bassin. Tu vas ouais. Me dire quand on marche aussi, mais le quatre pattes est encore plus.
C'est en ouverture.
Tu sais, ta jambe va en arrière, ça va chercher vraiment les hanches. Ça crée de la symétrie, c'est ce qui fait aussi que ça s'aligne bien dans
okay. En tout cas,
mais
ah, c'est intéressant.
C'est comme monter les marches, c'est encore meilleur que marcher parce que beaucoup plus d'asymétrie puis c'est
plus différent. D'ouverture aussi dans ouais. Le bassin. Puis ça fait penser, tu vas pouvoir plus le dire que moi, mais il me semble aussi que le fait d'être couché sur le côté avec le dos de bébé en haut dans le fond là, si je suis couché sur le côté gauche, ben le dos de bébé serait à droite, ça peut aider bébé à se placer puis à être plus dans l'engagement. Je ne sais pas si vous faites ça en yoga, je ne me souviens pas.
En fait, nous autres, ce qu'on fait en yoga, souvent on dit que la maman va se placer du côté du dos du bébé, naturellement. Parce que, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, mais tu sais, quand on est, mettons, tu es en 39-40 semaines, puis que bébé a le dos à gauche, puis que tu te couches à droite, il y a comme un vide.
Ouais.
C'est comme, ça prend quasiment un coussin pour cointer le ventre, oui. Là, parce qu'on est comme pas bien
c'est
on ne peut pas dormir toute la nuit du côté du dos du bébé non plus. Mais dans le fond, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que des fois, là on préfère que le bébé ait le dos à gauche, hein, en médecine, pour qu'il s'aligne bien dans le bassin. Qui rentre la tête bien fléchie, bien le nez vers l'arrière.
Oui et non, parce qu'il y a encore la notion qu'il ne faut pas se coucher sur le côté droit en grossesse parce mm-hmm. qu'on va nuire à bébé. Mm-hmm. Ça, c'est vrai et pas vrai, dans le sens que c'est notre veine cave qui est au niveau du ventre, la grosse veine dans notre corps qui amène tout le sang. Si on la comprime, en fait, on va être étourdi, on ne se sentira pas bien nous-mêmes et de par le fait même, le bébé va manquer un petit peu de sang. Moi, je me suis couchée sur le côté droit, toute ma grossesse. Il y a plein de patientes, c'est la seule façon qu'ils sont capables de dormir. Sur le dos, souvent, à la bédaine, on étouffe un peu. L'important, c'est que si vous êtes bien couché sur le côté droit, bien, c'est parfait. Vous pouvez vous coucher sur le côté droit. Si c'est en train d'accoucher, votre bébé ne va pas bien. Si, par contre, ça vous fait des bouffées de chaleur, vous êtes étourdi, bien là, non, mettez-vous de l'autre côté. Mais je pense que, comme tu dis, probablement qu'on sent la position qu'on veut être.
Moi, je dis toujours que avant que bébé ait le mal, tu vas mal filer.
C'est ça, exactement. Fait que je pense que...
Tu vas avoir des jambes engourdies aussi, les filles. Oh, oui. Les filles ont des, comme des élancements dans l'aine,
ouais,
des jambes.
Dans le bassin.
Mais concernant l'alignement, des fois, ça peut peut-être aider à tu sais, si on se couche sur le côté gauche puis que le bébé a plus le dos à droite, oui, ça peut l'aider, mais si ça dépend comment sa tête est à côté.
Oui, c'est ça.
Si elle est trop basse ou à côté dans le bassin, il ne fera pas le mouvement.
C'est
ça.
Des fois, c'est plus pour faciliter qu'il s'engage dans la bonne position au début, mais...
Puis, on élabore, là, mais souvent, ce qu'on va... En tout cas, moi, ce que je vais plus proposer, ça va être de l'inversion. Mettons que bébé est en siège, mettons que bébé, sa tête est à côté dans le bassin, puis tu sais, on est en fin de grossesse, puis tu sais, il y a encore du temps, tu sais, il n'y a pas tellement de contractions encore, c'est comme l'inversion, mettons, un exemple, tu es couché dans ton lit, tu peux mettre, ça prend quand même deux, trois...
Beaucoup d'oreillers.
Oui, oui, oui. Si vous avez des petites chaisères, moi j'ai ça quand je donne mes cours, comme pour s'asseoir au sol, là, les enfants qui gament ou qui jouent aux jeux vidéo, tu la mets à l'envers, puis ça, ça te... On va le dire comme ça, ça jack le bassin vers le haut. Puis ça, ça permet de comme de donner de l'espace. Tu sais, ça, bébé, il va comme s'accoter un petit peu plus vers les côtes. Ça permet de donner de l'espace. Puis là, s'il y a à s'aligner, ça peut y donner une chance. C'est pas... Il n'y a pas rien qui est magique.
Non,
là.
C'est ça. Sinon, s'il y avait quelque chose de magique, on le ferait tout. Tout le monde le ferait.
On parlerait juste de ça. Puis, mais ça, ça peut être un moyen, des fois, de faire tourner des bébés qui sont en siège. Écoute, le plus spectaculaire, j'ai vu ça une fois, là, mais l'inversion parfaite, c'est une fille qui est allée à la piscine, au bain libre, avec son chum. Elle a fait une chandelle, là, tu sais, les pattes en l'air, comme quand on était jeune. Là. Et elle l'a fait, je sais pas, là, quelques fois. Puis à un moment donné, le bébé, elle l'a senti, il a viré de bord. Mais je l'avoue, je l'ai eu connaissance de une fois, puis c'est pas moi qui ai vécu ça, mais... le principe de l'inversion, c'est de créer de l'espace parce que des fois, ils ne peuvent pas se tourner parce qu'ils sont trop à côté, trop bas, trop à côté dans le bassin. Je ne sais pas si...
Oh oui, donc tout à fait. Puis il y a un site internet d'ailleurs que j'ai découvert qui s'appelle Spinning Babies. Là. Désolée pour mon anglais, mais les bébés qui se tournent ou en tout cas quelque chose comme ça. Mais ils ont vraiment mis plein de différentes techniques qu'on peut faire dans ces cas-là. Puis ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Puis tu me fais penser quand tu disais là, la chandelle, je l'ai juste vue une fois, mais c'est aussi ça qui est difficile. Pour tout ce qui est moins médical dans tout ce qu'on vient de dire, c'est difficile de prouver est-ce que c'est ça qui a fait que tu as accouché? C'est-tu l'acupuncture? C'est-tu la position que tu as pris qui a fait tourner le bébé? Ou il aurait tourné de toute façon? On ne peut pas faire un reculon puis refaire la même chose en changeant ce qu'on... Mettons, en allant pas chez l'acupuncture, ça ne se fait pas. Donc, c'est plus difficile d'avoir les études qui confirment que ça a un effet. Souvent, c'est ce qui nuit aux approches plus moins traditionnelles.
Moi, je reviens toujours à la base avec ça, ces affaires-là. C'est que si tu nous écoutes là, en ce moment, puis que ça te dit rien en tout, puis que tu es comme en aversion, ben écoute, c'est ça. Mais si ça fait du sens pour toi, tu sais, tu le dis, tu sais, ton cerveau plus cartésien, l'acupuncture, tu n'étais pas sûre. Puis, tu sais, on entend toutes sortes d'affaires aussi là, avec l'acupuncture. Mais il y avait une partie de toi qui disait « Crime, j'ai rien à perdre. »
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, puis c'est ça, j'ai rien à perdre.
Je pense qu'avec toutes ces affaires-là, moi, c'est comme ça que j'y vais. Tout a du bon, puis tout chevauche ou est complémentaire à toutes les interventions médicales qu'on a parlé dans le dernier épisode. Mais il faut que ça vibre en dedans de soi pour essayer ces affaires-là. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà eu un bébé en siège. Il n'y a rien que je n'ai pas essayé, là. Elle a couché sa chaisière, jackée, comme je viens de dire. Je l'ai faite, brûlée. Tu sais, un chaud, pas brûlé, là, mais c'est un point d'acupuncture chauffé, le petit orteil. C'était quelque chose, quand même. Puis, ça n'a pas fonctionné. C'était pas pour moi. Mais en même temps, elle a fini par se revirer. J'en parle... À un moment donné, quand je parle de mes histoires d'accouchement, pour y retourner voir autour de l'épisode 14, si je me souviens bien. Mais tout est là pour donner une chance, mais il n'y a rien qui... Comment je dirais bien, donc? C'est pas noir ou blanc.
Bien, c'est ce que j'allais dire pendant que tu parlais, parce que là, on s'emballe parce qu'on aime ça, mais dans le fond, si quelqu'un écoute ça et dit « Écoute, moi, ça ne me parle pas en tout, là, pourquoi je ferais ça? C'est pas grave si je suis déclenchée, tu sais. » C'est vrai aussi, il y a quand même des raisons de déclencher, puis c'est pas vrai que tout le monde va finir par accoucher. Ça se peut qu'il y ait une raison qui fait qu'on ne rentrera pas en travail nous-mêmes. Fait que si pour vous, c'est pas quelque chose de, c'est pas un échec, c'est pas plate, c'est pas une finalité différente que ce que vous aviez en tête, c'est bien correct aussi. Moi, je vois ça comme un coffre à outils. On peut pas utiliser l'outil si on ne sait pas qu'il existe. Ben, c'est un peu ça. Tu te dis, je sais que ça existe. Si je le sens à ce moment-là puis j'en ai besoin, je l'utiliserai. Puis sinon, ben, c'est tout.
Puis dans le coffre, il y en a qui nous tentent, puis il y en a qui nous tentent c'est pas. Dans les méthodes naturelles, autant que dans les interventions médicales. C'est sûr que dans les interventions médicales, le hic, c'est que des fois, même si ça ne te tente pas, tu n'as pas le choix de passer par là, parce qu'il faut qu'ils sortent à un moment donné.
Ouais, c'est
des fois, il y a des complications qui sont non prévues. Mais c'est ça. Dans le fond, dans les méthodes que tu proposes, là, c'est vraiment d'essayer d'y aller. Moi, je suis du genre noir ou blanc, là, c'est sûr. Personnellement, je fais tout.
C'est ça.
Moi, je fais tout. Mais ça, c'est moi, parce que moi, ça me parle pour ça. Mais toi, si tu choisis une chose dans ça, puis que ça te convient ou rien du tout, ben c'est parfait aussi. Là. C'est ça le principe. Fait que dans les déclenchements, as-tu pas mal
fait? Oui, je pense que oui. Je me sens emballée, je pense que...
Non, c'est parfait, écoute. Puis au niveau du soulagement de la douleur, dans les méthodes d'intervention médicale, on en a parlé de ce que le système, entre guillemets, peut nous offrir.
Ouais.
Mais nous, comme femme qui accouche, qui veut être proactive un peu ou beaucoup, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben en fait, premièrement, c'est sûr que ça commence avant l'accouchement. La préparation, je veux dire.
OK.
C'est vers là que tu m'en...
Oui, vas-y.
Je voyais ton regard. Dans le sens que, on a déjà dit ça un petit peu en blague dans un souper de collègues, mais moi, je compare ça à un marathon, un accouchement, bien, on dit physiologique ou non, là, peu importe. Dans le fond, c'est un moment qui est intense, fait que c'est sûr qu'il y a une certaine préparation. Comme je te disais, moi, je serais cartésienne, là, étant ce que je suis, je me suis préparée, mais on n'irait aucun livre de toute la grossesse. L'important, c'est d'être informé, savoir à quoi s'attendre, savoir on est qui, qu'est-ce qu'on veut comme couple, puis qu'est-ce qu'on veut pas. Parce que parfois, je vois des patientes qui arrivent à l'hôpital, leur conjoint, il n'a aucune idée à quoi ça va ressembler l'accouchement. Elle a dit, écoute, j'ai jamais accouché, fait que dans le fond, c'est entre vos mains, je vous laisse décider, ou tu sais, ça me dérange pas, j'ai jamais accouché. Puis ça me fait toujours un petit pincement au cœur parce que je me dis, il y a quand même un minimum qu'on peut savoir. C'est vrai que quand on n'a pas accouché, on n'est pas obligé d'avoir vu tout plein d'accouchements sur Internet, d'avoir lu là-dessus, mais il y a certaines choses qu'on peut vouloir puis pas vouloir. Puis en même temps, qu'on veuille accoucher naturel ou pas, physiologique ou pas, césarienne ou accouchement vaginal, ça l'aide quand même, on est plus prêt, on vit ce moment-là plus calme, plus zen. Puis pour les conjoints aussi, ils savent plus à quoi s'attendre puis ils peuvent être plus avec nous dans ce moment-là aussi. Fait que peu importe, que ça vous fasse peur ou pas, encore plus si ça vous fait peur, c'est important de au moins s'informer pendant la grossesse.
Ça va chercher vraiment la connaissance de soi, ça va chercher la connexion aussi entre le chum. Mais moi, je l'entends en postnatal. Tu sais, les filles, je sais pas si je vais le dire comme je le pense, là, mais ils sont comme plus fiers de leur chum, plus contentes d'avoir choisi ce papa-là,
oui,
quand ils ont senti cette connexion-là, oui, entre eux autres, que quand le chum arrive et qu'il ne sait pas quoi faire, puis qu'il est pauvre lui, il fait de son mieux. Là. Ils ont fait tout de notre mieux, oui, dans la vie. Là.
C'est ça.
Mais,
c'est comme un travail d'équipe, en fait.
Oui.
C'est pour ça que le marathon, je trouvais, tu sais, en fond, si on veut se préparer pour un marathon, bien, on se prépare mentalement. Et les coachs, des fois, sportifs, on se visualise, on voit ça, un objectif à la fois. On s'entoure d'une équipe qui croit en nous aussi, qui peuvent nous aider. On a les objectifs, mais c'est personnel à chacun. Si on veut faire un marathon, un 5 km, on n'est pas mieux ou moins bon. Puis ça reste quelque chose de physique qui fait qu'il faut être actif. Fait que pendant la grossesse, de bouger seulement, là, d'être actif, de connaître son corps qui change aussi. Donc le yoga, souvent, ça va être aidant pour ça. De sentir son corps, de respirer, se détendre, ça va être aidant pour l'accouchement. Puis d'avoir des discussions avec notre conjoint, justement. Le plan de naissance, ça vaut la peine de le faire avec. C'est un bon moment pour se dire, OK, ouais, on n'a pas parlé bien de l'accouchement qui s'en venait. On pourrait s'asseoir puis regarder ça ensemble avec mon conjoint. Souvent, je trouve que c'est un beau moment pour s'asseoir ensemble puis en parler. Sinon, ça déboule rapidement, surtout si on a déjà un enfant ou deux ou plus. Ça va vite, puis on se ramasse le jour de l'accouchement, puis on se dit, ouh, on est déjà rendu là. Donc, pour la préparation, c'est ça. Je pense que d'en parler, de s'informer, puis de savoir un peu ce qu'on veut aussi.
Parce que moi, ce que je trouve important dans ce que tu dis concernant l'image avec le marathon, mm-hmm, c'est vraiment, oui, il y a une préparation physique, mais il y a une préparation mentale aussi. Puis pour l'accouchement, là, moi, ça fait longtemps que je trouve ça comme identique. J'ai jamais fait de marathon, mais n'importe quel sport... que tu veux faire un petit défi ou, tu sais, comme tu dis, un 5 km, ouais, ou monter
pousser
une montagne.
Un peu nos limites, ou
c'est ça. Ça demande... c'est pas vrai que c'est juste physique. C'est... il y a énormément qui se passe entre les deux oreilles.
C'est ça. Puis un peu comme des fois aussi, il y en a qui vont être informés durant la grossesse, puis finalement, ils vont dire, ben je voudrais essayer un accouchement naturel, mettons. bien, encore là, des fois, d'avoir eu quelques petits trucs, ça fait que c'est un peu moins, c'est comme moins déstabilisant, justement. Le coffre à outils, bien, il est plein. Fait qu'on ait besoin, qu'on n'ait pas besoin, ça vaut la peine, des fois, d'avoir entendu quelques trucs pour savoir qu'on les a au besoin. Que...
Juste pour la sécurité.
Oui, c'est ça. Avoir
l'impression qu'on a tout ce qu'il faut.
C'est ça. C'est personnel à chacun, mais c'est sûr que je vois que c'est facilitant dans les patientes qui, mm-hmm. que je vois à l'hôpital et que je vois dans mon bureau aussi. Souvent, ils vont voir une bonne différence.
Mm. Parfait. Puis pour la douleur comme telle, pendant le travail, tu sais, tu as parlé de la préparation mentale, visualisation un peu. Qu'est-ce que toi, tu vois qui est important par rapport à ça?
C'est sûr que comme médecin, on n'en a pas appris beaucoup, malheureusement. Avec moi, c'est par ma curiosité que j'étais allée gratter un petit peu avant d'être enceinte, puis pendant mes deux grossesses aussi. Mais ce qui fait aussi que parfois, nous, on se sent un peu impuissant comme médecin. T'sais, les conjoints ont dit qu'ils se sentaient impuissants, mais comme infirmière médecin aussi, des fois, quand on veut aider, mais on dirait qu'on est limité parce qu'on pense juste à nos outils, à nous de...
De péridurale
ou de bain ou de bouge d'un bord, bouge de l'autre, bien là, je ne peux plus faire grand-chose. Mais tu sais, fait que moi, on dirait que je n'acceptais pas que ce soit mes seuls outils, probablement, parce que c'est ça. Je voulais remplir mon coffre comme il faut. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que maintenant, je vois avec des nouvelles lunettes, si on veut, là. Mais l'état d'esprit, quand les gens arrivent à l'hôpital, ça fait toute la différence. Des fois, les odeurs. Moi, mon chum, j'avais mis sa bouteille de parfum pour sentir son parfum, c'est relaxant. Une espèce de vision ouverte, de dire, bon, je suis préparée, je sais ce que je veux, j'en ai parlé un petit peu avec vous en arrivant à l'hôpital, mettons, si vous voulez accoucher à l'hôpital. Maintenant, ben je me laisse aller dans la vague, puis je vais prendre ça comme ça vient. Une espèce d'accueil, comme on se disait, mais de faire attention, peu importe ce qu'on veut comme accouchement, d'avoir une vision trop fermée. Parce que ça peut faire qu'on peut être déçu, puis ça peut faire qu'on, justement, on sait pas d'avance à quoi s'attendre, dans le fond. Donc, l'espèce d'approche d'ouverture... puis pour la douleur, la visualisation, il y a plein de choses qui existent. Ça vaut la peine d'en entendre parler. Puis il y a des fois des choses qui vont nous faire oui. Je me souviens que dans les premiers cours que j'avais fait avec toi, tu avais dit ça. Puis j'étais là, faire oui. Ça me dit pas oui en dedans de moi, mais à un moment donné, mais je l'ai senti. Parce que là, j'ai entendu des bruits de vagues. Puis là, ça m'a tellement tout d'un coup calmée. Je me suis dit, OK, là, ça me fait oui. Fait que visualiser quelque chose qui...
Il n'y a rien comme l'expérience.
Oui, hein? Exactement.
Oui, faut le voir passer pour... C'est ça.
Puis une fois qu'on embarque dans le bateau puis qu'on se laisse, on sauve aussi l'esprit, bien là, on est capable de plus se rendre compte de ça. Donc, visualiser, je pense, par exemple, à un bateau, des vagues. Tu sais, les vagues, ça part, ça repart, ça va revenir plus tard. Une montagne, tu arrives au sommet de la montagne, elle va redescendre. Il y a plein... Il y a des gens qui faisaient des fois des... du cross-country ou des courses en montagne beaucoup, puis c'était ça qu'il y avait comme image. C'était comme leur point de référence de dire, ben je suis arrivée au sommet, tu sais. Il y a plein d'images qui peuvent faire du sens, de prendre vraiment les contractions une à la fois. Ça change de tout au tout la différence entre la souffrance puis une douleur ou une intensité. Le fait de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif qui nous attaque, t'sais, la contraction, en fait, il y a quelque chose de positif qui est avec ça, il y a un bébé, il y a une finalité. C'est sûr que ça change beaucoup. Fait que la façon de voir ça comme mon bébé s'en vient, c'est ça que je sens, tout ça va diminuer beaucoup. Le bain qu'on se disait, la chaleur, les bruits, probablement que tu dois en parler dans une autre capsule, mais moi, j'étais la première en cours à ne pas être capable de faire des bruits, justement. Mais
les sons.
Les sons, peut-être. J'étais tout le temps gênée, mais finalement, là, c'est ce qui a le plus changé. Un petit truc, vous pouvez aller dans le bain puis partir les remous, là, les bulles dans le bain, ça fait du bruit, fait que ça va vous camoufler un peu les sons, mais comme les joueurs de tennis ou les quand ils font du karaté puis qu'ils cassent les briques, là, c'est beaucoup des sons qui sont libérateurs puis ça fait du sens vraiment beaucoup. D'ailleurs, quand on porte attention, on le voit, la différence des sons. Quand une patiente est en train de se compléter, de devenir complète, ou qu'elle va pousser, le bébé descend, on l'entend juste au bruit qu'elle fait qu'elle est en train d'être sur le bord d'accoucher.
Okay.
Ça devient comme plus grave, plus long comme bruit.
Et puis pantoute dans sa tête en se disant « je fais des sons ».
Exactement.
Là, ça vient tout seul.
Ça vient tout seul. Ouais. Exactement. Donc, les sons,
c'est
après
sûr que
ça,
de l'extérieur, c'est ça. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur,
oui,
ce truc-là, mais
c'est plus difficile,
vous en rencontrez...
On le voit de l'extérieur. Okay. Souvent, d'ailleurs, c'est ça, les infirmières, maintenant, ils vont nous regarder avec un petit regard en voulant dire « mets tes gants, dépêche-toi, ça s'en vient ». Tu sais, on entend comme le que ça déboule.
OK. Puis concernant les images,
oui.
Tu peux te référer, si tu veux, à... aux épisodes là, autour de la 31-32, on en parle beaucoup, là, de la visualisation, même je te fais une méditation là-dessus. Fait que c'est important hein, d'avoir... C'est un support mental.
Bien, ça occupe puis l'esprit
pas,
aussi.
Puis c'est pas juste... Oui, oui, c'est un support pour l'esprit, mais c'est pas juste de penser à autre chose.
Non.
Mais c'est un, il y a une partie de ça, mais il y a une partie de... Comme pour avoir un focus, dans le fond.
Oui. Je trouvais aussi que ça compartimentait des fois... C'est comme si, mettons, tu fais un petit peu de son, après ça, tu penses aux couleurs qui vont se libérer, tu penses à te détendre, tu écoutes une musique. C'est comme si ça fragmente aussi l'accouchement en petits morceaux aussi, un peu comme un marathonien qui va prendre un kilomètre à la fois, justement. Ça fait ça aussi, mais c'est positif, là. Ça, mm-hmm. ça, c'est ça.
Puis, j'ai mangé ce que je voulais dire. C'est pas grave, continue.
les images, tu me parlais, la musique aussi, moi je trouve ça bien d'avoir les écouteurs parce qu'elle nous met dans notre bulle d'avoir les écouteurs, ça fait qu'on sent pas mal de ne pas parler avec les gens qui sont là, puis ça permet d'être dans sa bulle, c'est vraiment aidant.
J'ai retrouvé ce que je voulais dire, mais au niveau des images, là, c'est que la visualisation va aussi permettre à notre cerveau de sécréter de l'endorphine. La même chose qu'un marathonien, là. À un moment donné, les endorphines, c'est pas un bouton on-off, là, mm-hmm. cette histoire-là. Fait que ça crée une bulle, ton histoire, là, tu sais, compartimenter, faire des sons, visualiser les images, ça permet tout ça, là.
Oui, c'est apaisant, en fait, hein, parce que c'est comme une morphine naturelle, les
Exactement.
Endorphines.
Puis on en veut.
Oui, c'est
on les
ça.
Veut, on les veut.
Puis c'est drôle parce que moi, j'adore ça voir de l'extérieur les accouchements. Mais on dit naturel, mais physiologique, dans le fond. Parce que souvent, les patientes, ils vont dire « Oh boy, ça va pas, ça va pas. » Mais ils se sentent comme perdre la carte. Mais c'est comme s'ils sont un petit peu désinhibés. Comme s'ils se sentent fatigués. Mais en fait, ils sont vraiment comme s'ils avaient pris beaucoup de morphine. Là. Ils sont un petit peu relax et détendus. Puis ils font des blagues. Puis là, des fois, ils ont l'impression que c'est parce qu'ils... Ils perdent le contrôle, mais au contraire, on le voit comme s'ils venaient de prendre de la drogue, en fait. Ils sont un petit peu comme dans les vapes, puis ça change vraiment. Des fois, les conjoints sont surpris. On voit des fois des patientes qui s'endorment entre les contractions, là. Fait que c'est pas la majorité, mais c'est pour dire à quel point que c'est apaisant.
C'est
puis aussi, quand ils accouchent, on le voit vraiment aussi. Les bébés, souvent, ça les apaise aussi, ces endorphines-là. Puis les mères, comme rapidement, on dirait qu'ils sont hoop. Comme si là, il y avait une switch que là, ils accouchaient, c'était intense, puis là, ils ont leur bébé. On dirait qu'il y a une espèce de bulle, je sais pas comment le dire, mais comme une douceur que ça l'amène aussi, là, cette endorphine-là, comme pour diminuer l'intensité, peut-être, mais on le sent la différence dans l'atmosphère, disons.
OK. Puis l'accueil du bébé quand ils sont dans leur bus, c'est ce qui fait qu'on entend les mamans dire « Quand tu as accouché, tu ne te rappelles plus de l'intensité. »
Exactement.
Parce qu'il y en a des fois qui me reviennent et disent « Ça, c'est démenti, c'est pas vrai. » Mais c'est sûr que celle-là n'était pas dans les endorphines.
Oui.
Tu sais, des fois, on ne gère pas toutes, là. Mais une femme qui est dans les endorphines, tu écoutes, tu viens d'accoucher. Puis je me souviens, après ma première, moi, je t'aimerais tout de suite à recommencer. Puis
c'est comme une grande dose d'amour.
Oui. Puis est-ce que ça, je ne sais pas si je ne veux pas te poser une colle, mais est-ce que ça a un lien avec l'oxytocine?
Oui.
Parce qu'à quelque part, l'oxytocine, c'est l'hormone de l'amour. Tu sais, c'est ce qui se dégage dans l'orgasme.
Oui.
C'est ce qui se dégage qu'on a besoin pour les contractions pour expulser bébé. Mais quand bébé est sorti, que tu es dans les endorphines et dans l'oxytocine, c'est comme ça fait un beau cocktail de
Exactement.
De bienvenue, là.
Moi, quand j'ai vu ça, là, mon côté fleur bleue a pris une débarque. L'amour est comme chimique et hormonal. Je dis, voyons donc! Mais c'est exactement ça, dans le fond, c'est que l'oxytocine qu'on libère nous-mêmes, ça veut dire quand on la donne en médicament, c'est ça un peu que ça vient bloquer. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même différent. Puis quand on a eu le temps d'avoir des contractions aussi avant d'avoir la péridurale, bien on a libéré aussi ça, c'est aidant aussi. Mais c'est que quand on libère l'oxytocine naturelle, c'est l'hormone de l'amour, c'est ce qui fait qu'on a l'espèce d'image cliché, mais de la maman qui s'exclame de son bébé qui est le plus beau de la terre. Moi, je regarde les photos de mes bébés quand ils sont nés, puis je me dis, mon Dieu, il n'était pas très joli. Il était beau, mais pas si beau que je me souviens. On est comme... Puis ce qui est drôle, c'est que des fois, c'est avec leur bébé, mais des fois, comme tu dis, c'est avec leur conjoint. Comme si cette dose d'amour-là, finalement, c'est
tombant
plus retomber en amour avec leur conjoint. Fait que c'est mignon. Puis des fois, c'est avec nous. Là. Ils nous remercient pour tout ce qu'on avait fait. Puis on était là 30 secondes. En général, c'est le bébé. Puis ça, je ne veux pas oublier de le dire parce que moi-même, je l'ai vécu, mais c'est pas tout le monde qui vit ce coup de foudre-là. Puis même si on a un accouchement physiologique, ça se peut qu'on ne le ressente pas comme ça. C'est important de ne pas se sentir mal. Des fois, c'est à force de prendre soin de bébé aussi qu'on finit par sentir cette vague d'amour-là. Mais moi, étant très cérébrale, là, j'étais un peu déstabilisée de ne pas me sentir...
Tu n'as comme pas eu le coup de foudre en
Non, mais j'étais plutôt partant, en mode, est-ce qu'il respire? Est-tu correct? Ah, oh, c'est fini, mon chum est là, tout va bien. On aurait dit que j'étais en mode...
Le médecin est revenu.
Peut-être, oui, dès que j'ai accouché.
OK,
je fait que j'étais en mode réfléchir, mon bébé, est-ce qu'il va survivre, il est-tu correct, il est rose? C'est ça, au lieu de juste me laisser aller dans l'émotion, puis là, je me disais, mais non, je veux dire, pourquoi je suis super expressée d'habitude, j'exprime plein d'amour, puis je trouvais que j'étais comme froide, mais ça n'a pas été long que ça a débloqué, puis en parlant, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde, c'est ça aussi.
Mm. C'est super tabou ce sujet-là.
C'est ça, c'est comme si on n'était pas une bonne mère ou comme pas aimante, mais...
Comme si nous autres, l'instinct maternel, c'était pas inné ou... Tu sais, c'est des clichés qu'on a dans notre tête.
Ouais.
T'es supposé tomber en amour instantanément quand le bébé est sorti. C'est pas toujours vrai.
Exact. bon, là, je suis enthousiaste et je suis en train de t'emmener ailleurs, je pense.
Non, mais il n'y a pas de trop. Là, on revient à l'accouchement physiologique. Ouais. On a regardé un peu soulagement de la douleur, tout ce qui est mouvement.
Oui.
Tu en as parlé un petit peu, bouger, oui, pendant la grossesse, mais pendant l'accouchement,
ouais,
pour aider à faire descendre le bébé, c'est super...
Oui, s'il y a une chose à retenir, je pense que c'est ça, bouger.
Ça fait partie des
N'importe clés. Comment, mais bouger. Puis souvent, tu sais, quand on rentre dans la chambre d'hôpital, souvent, on dirait qu'on voit juste le lit. Comme si, finalement, ben c'est juste là qu'il faut aller. Des fois, je dis à mes patientes, essayer de nous empêcher d'y aller parce qu'on peut être bien, mais... Quand on bouge, quand on enjambe le bain, quand on marche un peu, tout ça, peu importe comment on se place, fait bouger le bassin et aide vraiment bébé à se placer. Donc, c'est comme plus efficace. Puis, je trouve qu'on gère mieux la douleur aussi parce qu'on dirait que coucher, c'est comme si on était un petit peu bien, comme impuissant, j'ai l'impression. Tandis que debout, en mouvement, on dirait qu'on embarque dans le bateau, dans la vague. Là. C'est moins agressant comme
Comme
intensité.
Si coucher, on était plus passive
oui.
aussi. Il vient un moment, des fois, dans l'accouchement, que là, on n'a plus le goût de trotter, oui. on n'a plus le goût,
oui.
c'est bien correct. Mais moi, c'était mon piège. Moi, c'était pas couché, moi, c'était assis. Moi, j'étais bien assis, bizarre. Je sais pas pourquoi, là, j'ai jamais élucidé la question. Mais assis bien droite, tout ça, mais assis, c'est assis, hein? Le bassin, il est assez fixe.
Mm-hmm.
Mais, ouais, fait que bouger, ça fait partie des clés.
Il y a plein de choses disponibles aussi, hein? Prendre un ballon, assis dessus. On peut prendre un drap d'hôpital qui est un peu élastique, puis l'accrocher en hauteur sur le cadre de porte, sur des espèces d'arceaux qu'on peut mettre au-dessus du lit qui fait qu'on peut se suspendre, sur le cou de notre conjoint. Ça vaut la peine de le faire avant, par contre, parce que moi puis mon conjoint, par exemple, on est la même grandeur. Fait que c'est sûr que c'est pas pareil qu'une fille qui mesure 4 pieds puis son chum 7 pieds. Il faut comme avoir une petite idée de ce qui fonctionne ou pas.
ça fait toujours des... C'est toujours bien cocasse. Moi, quand je le fais en présentiel, tu sais, des fois, ça m'est déjà arrivé... Il y a toutes sortes de physionomies.
Mm-hmm.
Tu sais, des fois, le gars est ben trop grand. Elle a des petits bras courts. Elle est quasiment debout, puis ses bras sont au cou. Puis, j'exagère un peu, là. Mais des fois, ça m'est arrivé d'avoir une fille plus grande que le chum. Puis là, le chum, il avait beau essayer, puis il était mini-pou. Écoute, il était pas capable. Non, ça marchait pas pantoute. Mais c'était drôle, là. Tu sais, il y a rien de grave. Mais si tu l'as pas essayé avant, quand c'est le temps, c'est pas le temps d'expérimenter ça.
Ça vaut la peine juste d'avoir essayé au moins, c'est ça. Puis, donc pendant
les tout ce qui est asymétrie, là, les marches, juste être assise ouais. sur le bord du lit aussi, des fois avoir ouais. une hanche plus ouverte que l'autre.
La salle de bain, là, ça a l'air niaiseux, mais des fois, juste se rendre à la salle de bain, mm-hmm. la position un peu plus accroupie, tout ça, ça peut aider.
Être assise sur le bol de toilette, penchée ouais. en avant, ça revient à ce que tu disais tantôt, ton histoire de
oui.
quatre pattes, tout ce qui est penchée en avant. Moi, j'ai déjà vu, je fais une parenthèse, on a fait plusieurs parenthèses, mais une fille qui était en maison de naissance, qui avait tout essayé, puis là, écoute, c'était l'ultimatum. Les ambulanciers ont arrivé, et quand elle a embarqué sur la civière, ça l'a fait décoincer la tête de bébé, puis elle a accouché sur hey, la hein? civière à la maison de naissance, puis ça, c'est... J'ai vu ça une fois aussi, mais quand même, elle était quand même chanceuse. Mais c'est vraiment la symétrie
oui.
qui a fait placer le bébé comme
ça. La dernière chose, peut-être avant qu'on regarde plus pour la poussée, c'est oui. vraiment au niveau mental, comme on parlait tantôt, les visualisations. Parce que mettons, le papa, ça serait peut-être son rôle principal, je trouve, où je dis papa, mais la personne qui accompagne. J'appelle ça, moi, le protégé, la bulle ou le chasseur de lions. Parce que, je pense que je te l'avais déjà raconté, mais si on pense à un animal sauvage, là, je sais pas, une lionne, par exemple, là, qui doit accoucher, bien, ils ont quelque chose de chimique, là, de physique, qui fait que s'il vous perçoit un danger, tout d'un coup, l'accouchement arrête. Ils ont de l'énergie pour courir, aller se cacher dans une grotte. Puis là, quand il n'y a plus de danger, ils sont capables de se redétendre puis de continuer leur accouchement. C'est vraiment physique, puis à quelque part, on est animal à la base. Donc, mm-hmm. on est fait comme ça aussi. Si on ressent un danger ou qu'on est trop dans notre tête à réfléchir, c'est dur de libérer les hormones qui vont faire que ça peut avancer puis qu'on est plus détendu avec les endorphines qu'on parlait tantôt. Donc, tu sais, des petites choses, pas regarder l'heure, pas tout le temps vouloir savoir à combien on est rendu. Des fois, c'est décourageant. Pas réfléchir.
Je suis aux 2 minutes, aux 5 minutes, des fois ça voyage, puis ça c'est décourageant. Des
fait que peut-être de laisser ça au conjoint qui peut les noter, pas trop regarder l'horloge. Tu sais, des fois, s'il y a des visiteurs qui viennent, tu sais, de laisser le conjoint gérer ça un peu. Tout ce qui fait que vous êtes dans votre tête, dans le fond. Fait que tout ce qui est plus, comme on est dans notre bulle, on écoute notre musique, on respire, on relaxe, ça va être tout facilitant. Mm-hmm. Puis, une fois rendu à la poussée, c'est de visualiser bébé qui sort aussi. Des fois, on a envie de dire « Oh non, ça ne me tente plus », mais c'est vraiment beaucoup mental aussi, la visualisation, là, à ce moment-là.
Mm-hmm. Puis concernant la poussée physiologique, est-ce que tu as été témoin souvent du vrai réflexe de pousser, tu sais, du réflexe que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, la fille, elle pousse, là?
Exactement! Ben oui, exactement. C'est quand je parlais des bruits tantôt, c'est vraiment ça. On l'entend, une espèce de comme c'est rien qui force en fait là. Je veux dire, on peut pas dire à une patiente qui arrive, mettons, en ambulance, puis qui est en train d'accoucher là, attends, là, le médecin s'en vient, oublie ça. C'est comme de vomir. On peut pas demander à quelqu'un de se retenir de vomir. C'est vraiment naturel. Mais ça se ressent. Des fois, on a l'impression qu'on est rendu dû pour pousser, puis là, on pousse, on pousse, on pousse, puis on dirait que ça n'avance pas, mais c'est pour ça que c'est important d'attendre vraiment que ça se fait tout seul. Notre corps a envie de vomir, mais c'est pas mm-hmm. vomir, mais l'effort. Donc oui, vraiment.
Moi, je dis toujours aux filles, si l'infirmière ou le médecin te demande « As-tu envie de pousser? » Tu dis « Non! » Parce que quand tu vas avoir envie de pousser, tu vas le faire.
C'est... Exactement. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un des messages clés aussi, c'est le « late pushing » qu'on appelle, là, mais la poussée retardée, c'est super important. Quand tout le monde va bien, quand on est complète, il n'y a pas de presse à pousser. Ça vaut vraiment la peine de laisser le bébé descendre, de bouger, de se placer autrement. Puis même avec une péridurale, on peut bouger hein, les jambes, tout ça. Ça se fait vraiment là, dans le lit, mais en se tournant avec le ballon, tout ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est important de laisser descendre le bébé tant que tout le monde va bien. Comme ça, on sauve l'énergie, puis ça aide aussi à ne pas forcer, là.
On sauve de l'énergie, puis on sauve de la pousser vers le bas pour protéger le périnée.
Exactement.
Au bout du compte, là, de
oui.
cette histoire-là. Vraiment. Là, c'est ça. Puis comme pour protéger... Bien, t'avais-tu d'autres choses à rajouter sur la poussée?
Tu parlais de la poussée physiologique. En fait, comme je te disais, je m'emballe facilement. Fait que quand j'avais appris tout sur la poussée physiologique, j'avais hâte de l'enseigner à mes patientes qui allaient venir pour accoucher. Puis là, c'était un peu cocasse parce que les infirmières qui étaient avec moi, je voulais comme leur prouver que ça fonctionnait, mais il faut vraiment l'avoir senti avant l'accouchement pour pouvoir le faire, surtout si on a une péridurale, parce qu'on sent un peu moins notre corps. Fait que c'est sûr que ça vaut la peine de le pratiquer. Des fois, je dis à des patientes qui sont constipées bien, que c'est une pratique, parce qu'on ne devrait pas aller à la toilette comme ce qu'on a appris. On devrait le faire les jambes plus surélevées, puis en faisant justement une espèce de poussée en expiration. Là, c'est pas très poétique, mais quand vous serez tout seul, vous y penserez. Fait que je pense qu'il faut pratiquer en yoga ou peu importe, mais pour le savoir. Puis en pratique, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est plus facile vers la fin. Quand, mettons, on est au début de la poussée, souvent on a besoin d'avoir un peu plus de puissance, de pouvoir. J'ai l'impression que ça fonctionne un peu mieux, soit d'attendre que ça descende, comme on se disait, ou soit si ça presse plus, là, de faire vraiment la poussée qu'on va des fois coacher à l'hôpital, là, comme tout en petit bonhomme, un peu les jambes surélevées, tout ça. Puis vers la fin, là, d'y aller en expirant, en faisant vraiment ça fait une différence. Je trouve que c'est plus doux la sortie de bébé, puis ça étire tranquillement le périnée. C'est moins dommageable aussi pour les hémorroïdes puis tout ça, dans le fond. Fait que je pense que c'est...
Comme une combinaison de pousser en inspire bloqué. Tu sais,
ouais.
T'inspires, tu retiens ta respiration et là, tu pousses, comme souvent les filles vont à selle, souvent comme ça. Mais la poussée en expire étant plus douce, ben ça respecte plus la capacité du périnée à s'étirer puis à,
oui.
à s'ouvrir.
Oui, bien, dans le
qu'il y a une poussée en inspire bloquée qui est quand même, oui, beaucoup plus puissante, mais qui, je vais peser mes mots, mais qui sont durs pour
oui.
le périnée.
En fait, comme ça. Le côté anatomique, normalement, on ne devrait pas faire ça, parce que c'est ça. On fait tout descendre en même temps. Là,
L'utérus,
la vestie, le ténémoroïde, les muscles s'étirent beaucoup. C'est sûr que c'est pour ça que je préfère faire le lead pushing long. Des fois, on peut faire 2 heures là, sans pousser quand tout le monde va bien. Fait que c'est sûr que je pense qu'il faut, faut essayer, en fait, c'est plus ça. Parce que moi, j'avais dans ma tête de le faire en poussée physiologique, puis finalement, ça ne fonctionnait pas quand j'étais rendue pour accoucher. Fait que des fois, juste comme on se disait, d'essayer des choses, de se réessayer plus tard.
Combiner des choses, puis d'essayer différentes positions aussi. Puis, oui.
Puis pour le périnée, l'autre chose que je trouve qui fait vraiment une différence, c'est de mettre des compresses chaudes sur le périnée. De leur demander.
La musculature.
Oui.
À la vulve, dans le fond.
Fait que quand la tête est vraiment proche de sortir, pour l'avoir vu puis pour l'avoir vécu aussi, les compresses tièdes, c'est comme quand on se brûle puis on se met la main sur la blessure, dans le fond. C'est comme si ça change, vraiment comme ça, comme la brûlure. Là, on dirait qu'on se met la main sur notre brûlure puis ça enlève un peu la douleur. La pression qu'on fait au niveau de l'étirement du périnée, juste ça fait déjà une bonne différence. Puis la chaleur détend les muscles. Est-ce que ça aide pour les déchirures ou pas? On ne sera jamais capable de le prouver, mais en tout cas, ça ne peut pas nuire. Fait que c'est sûr que ça vaut vraiment la peine.
Ça amène du confort au moment où ça se passe.
Exactement.
Ça
diminue vraiment beaucoup l'inconfort au moment que ça se passe.
Puis, moi, j'ai déjà entendu à un moment donné des filles qui me rapportaient, il y avait un médecin qui il n'y avait pas de barbouillette ou quelque chose, mais il mettait sa main. Une pression de sa main chaude, là. Finalement, ouais. C'est ça, c'est exactement ce que tu dis, mais c'est pas, je sais que c'est pas tous les médecins nécessairement qui sont à l'aise à faire ça, mais ça... Je pense que, comme tu dis, c'est pas nécessairement prouvé scientifiquement, mais c'est logique que quand tu mets de la chaleur, ça détend.
Ouais.
Tu sais, ça revascularise aussi, tu sais, quand la tête remonte. En tout cas,
Puis pour le confort de tout court, ça
tout fort.
Fait que des fois, c'est peut-être qu'ils sont pas à l'aise, c'est juste qu'on y pense pas parce qu'on n'a pas été formés comme ça. Mais oui, maintenant que moi, je l'ai vécu, j'essaie d'y penser. Fait que je ne suis pas gênée de l'écrire dans le plan de naissance pour y penser pour l'accouchement.
En discuter avant. Parfait. Hey, on a fait pas mal le tour de l'accouchement physiologique.
On s'est sûrement emballé, oui, c'est ça.
Mais c'est intéressant. Le message de conclusion. T'as-tu un message particulier en conclusion?
Bien, en fait, on a parlé de beaucoup de choses différentes, mais je pense que peu importe l'image du coffre à outils, de se dire qu'on s'outille, on s'écoute ce qu'on a envie ou pas, puis on essaie de ne pas remettre ça dans les mains des autres, de savoir ce qui se fait, puis de garder l'esprit ouvert, que ça se peut que finalement, la position qu'on a pensée, la façon d'accoucher qu'on avait pensée, si ça ne se passe pas comme ça, puis que ça sera correct comme ça, puis on essaiera d'autres choses. De garder en tête que, aussi, ce qui est important, c'est que bébé aille bien, que maman aille bien, que... Parfois, finalement, si le cœur de bébé va moins bien, ça se peut qu'on ne puisse pas faire ce qu'on avait en tête. Dans le fond, de garder ça comme objectif pour ne pas se mettre trop de pression.
Mm-hmm.
Mais.
C'est comme d'être proactive, là, ce que j'entendais. T'sais.
D'être proactive.
Pas juste remettre.
Puis d'être ouvert.
De se remettre dans les mains des intervenants, mais de.
Oui.
Être proactive, puis ça commence pendant la grossesse, dans le fond. Là. C'est comme en préparation avant.
Oui. Puis par rapport au plan de naissance, de justement le garder flexible, dans le fond, de dire c'est des souhaits de naissance, c'est ce que j'aimerais, pouvez-vous m'aider à aller dans ce sens-là? Puis c'est pas signé avec notre sang, on peut changer d'idée, c'est pas un contrat.
À la vie, à la mort.
C'est ça, exactement.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
fait qu'on se retrouve dans le prochain épisode avec une conseillère en allaitement. On va discuter un peu de comment se préparer, si tu as le goût d'allaiter ou pas, ou si tu n'es pas sûre. On va tout discuter de ça. Alors, je te dis à bientôt. Bye bye.